Bonjour, bienvenue sur Jean Rage, votre émission féministe lilloise, un dimanche sur deux, de 14 à 15 heures. Aujourd'hui, nous avons deux invités spéciales de superstars, Julia et Marie, salut.
Bonjour, bonjour.
Salut.
Et Anaëlle, toujours au rendez-vous.
Salut.
Petite émission sous le signe de la détente et du mauvais temps, on reste chez soi. au programme d'aujourd'hui, une petite rubrique sur les 24 heures du sport féminin qui se sont déroulées le week-end dernier. C'était une initiative du CSA, donc on reviendra dessus tout de suite. Ensuite, rubrique série d'animation américaine Legend of Korra. On reviendra dessus, les points faibles, les points forts, nos points de vue, est-ce qu'on a trouvé ça cool ou pas. On fera un peu les prescriptrices aujourd'hui, on vous recommande des trucs ou on vous recommande pas, ça dépendra. Et ensuite, une rubrique littéraire, on vous parlera d'Ursula Le Guin, qui est quand même une grande dame de la littérature féministe, avec le Didaka et la main gauche de la nuit. Tout de suite, je vous passe un petit extrait, une interview de Christine Kelly, donc c'est une journaliste qui était membre du CSA jusqu'il y a 2 semaines, si j'ai bien compris, qui a été interviewée par Philippe Robuchon pour RTL le lendemain de ses 24 heures du sport féminin. A tout de suite.
Intéressant à noter, c'est effectivement la progression quantitative et qualitative. Quantitative, effectivement, on était à 7% de retransmission sportive féminine, donc 93% masculine, et ça c'était fin 2012, on a fait exactement la même étude au même moment, 2 ans plus tard, et on est passé à 15% de retransmission sportive, donc féminine. Donc, on a doublé les chiffres. Ça c'est bien, et ça c'est vraiment quelque chose à applaudir de la part des médias. Par exemple, on est passé pour le tennis sur notre période d'étude, de 50 heures à 195 heures d'exposition.
Multiplié par 4.
Voilà, pour le basket, de 3 heures à 57 heures d'exposition, pour le handball, de 12 heures à 25 heures. Donc voilà, il y a eu effectivement des chiffres qui ont été en nette amélioration. Après, je ne m'arrête pas qu'aux chiffres, c'est-à-dire que si toute la diffusion se fait à 3 heures du matin, ce n'est pas le cas, je vous rassure, là, on va quand même se poser des questions. Mais cette diffusion, ce que je regrette encore aujourd'hui, c'est qu'elle reste sur des chaînes payantes. Alors, ça ne veut pas dire que les chaînes payantes n'ont pas le droit d'avoir du sport féminin et que je ne valorise pas ce qu'elles font, mais j'applaudis très bien leur travail, mais je me dis que ce n'est pas uniquement les chaînes payantes qui doivent diffuser le sport féminin. Il faudrait un jour qu'on puisse aller plus loin vers les chaînes gratuites.
Voilà, donc c'était Christine Kelly, anciennement membre du CSA, journaliste, qui nous parlait donc de ces 24 heures du sport féminin. C'est vrai qu'elle pose une question assez intéressante. Finalement, puisque le CSA est un organe d'ailleurs de l'État,
ouais.
Conseil supérieur de l'audiovisuel pour ceux qui ne savaient pas. C'est vrai que c'est assez bizarre que cette initiative vienne d'eux, mais qu'ensuite ce soit pas suivi autant sur les chaînes publiques.
Bah ça vient pas que d'eux, en fait c'est en partenariat avec justement le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et du secrétariat d'État chargé aux droits des femmes, en collaboration avec le Comité national olympique et sportif français. Donc c'est de toute façon un événement qui est étatique en fait, enfin qui est soutenu par l'État. Pour revenir rapidement, je reviendrai sur ce que dit Christine Kelly après dans la suite de mon exposé. mais rapidement, c'était la deuxième année que avait lieu ces 24 heures du sport féminin donc le week-end dernier.
Du coup, en fait, elle dit quand même que elle, les chiffres qu'elle compare, c'est ceux de 2012 et ceux de 2014, j'imagine. Pas 2015.
Non, c'est pas 2015. C'est, je me demande si c'est pas 2013. Ouais, 2000. Ouais, si. Enfin, c'est l'année d'après.
Bref. Du coup, on ne sait pas trop si elle veut. Enfin, ce qu'elle veut dire notamment, c'est que ces 24 heures du sport féminin, c'est vraiment ce qui a fait en sorte que qu'il y a un changement et que les chiffres doublent en termes de visibilité.
Je suis pas sûre que les 24 heures en tant que telles aient favorisé l'expansion du sport féminin, mais ça permet d'en parler à un moment vraiment précis, parce que y a toute la promo avant, il y a tous les résultats après, donc ça, en gros, ça, on parle de 24 heures, mais ça dure une semaine. Et puis régulièrement, il y a des rappels au niveau des grands des grandes rencontres sportives. Il y a des rappels sur le sport féminin, etc. Mais comme elle disait, on en voit de plus en plus, mais on en voit sur les chaînes privées ou on en voit sur des chaînes que personne connaît, qui passent à je sais pas quelle heure ou qui sont pas inscrites au programme. Ou... Enfin, c'est quand même assez problématique. Moi, je trouve cette histoire, c'est bien qu'il y ait un effort, mais voilà, l'effort, il est quand même minime. Et il y a quand même en chiffres après. Au niveau du sport féminin, il y a quand même d'autres problèmes. Les sports professionnels, par exemple, le foot, le rugby, le basket et le hand, si ma mémoire est bonne, il y a quand même une différence de salaire qui est énorme. Enfin, pour la différence de salaire entre les footballeurs et les footballeuses, il est 11 fois inférieur pour les femmes que pour les hommes. Pour le rugby, c'est presque 10 fois inférieur aussi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et donc au niveau des chiffres, c'est assez parlant aussi. Donc oui, en 15%, ça reste quand même pas beaucoup de diffusion de sport féminin. Il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même qui fonctionnent. L'équipe de foot, l'équipe de France de foot féminine est plutôt bien classée. La moitié de l'équipe sont les Lyonnaises parce que justement. L'OL, qui est pour les femmes et pour les hommes, a fait un vrai effort d'investissement d'argent là-dedans et du coup l'équipe lyonnaise joue très bien et s'en sort très bien. L'équipe de basket de Villeneuve-d'Ascq, elle s'en sort très très bien aussi parce que l'argent qui a été mis, il a été mis pour les femmes. D'ailleurs, les hommes, ça les fait râler. Ouais. Et ça les fait râler, mais l'équipe de basket, elle fonctionne super bien. Là, elle concourt pour la Coupe d'Europe. Elle est en quart de finale, elle est deuxième au classement du championnat de France, elle concourt pour la Coupe de France où elle a terminé en finale l'année dernière.
Après, ça me rappelle quelque chose qu'elle disait plus tard dans l'interview, c'est que, en tout cas, ce qu'on représente dans les médias, donc que ce soit radio, internet ou télévision, c'est on montre le sport féminin, on montre les championnes, mais on montre pas le reste. Alors que pour le sport exclusivement masculin, on s'en fout un peu qu'il y ait de la performance derrière. C'est-à-dire que si le LOSC a une performance de merde en telle année, on va quand même diffuser tous les matchs auxquels il participe. Ouais. Également sur les chaînes locales d'ailleurs, comme WEO et compagnie, là, ils sont tout le temps en train de mettre les matchs. Mais en revanche, les filles, c'est seulement si elles ont des bons résultats et que c'est un peu des grosses stars, quoi, on va dire, que là, il y a une diffusion et il y a une visibilité.
Et encore, l'année dernière, en 2014, il y a eu les championnats du... Non, il y a eu la Coupe du Monde du hand féminin. Il n'y a eu aucun match de retransmis. Hein. Aucun. Et elles étaient en quart de finale. Elles sont allées jusqu'en quart de finale, il n'y a eu aucun match. Là, on voit les hommes, c'est la finale ce soir. On voit les hommes depuis le quart, quoi. Et il n'y a eu aucun match, on avait les résultats, tout ça, mais il n'y a pas eu de match. Cette année, fin 2015, ça va être la Coupe du Monde de basket féminin. On va voir s'il y a des retransmissions ou pas. Il y a des matchs au Grand Stade, à Villeneuve, de l'équipe de France. On va voir s'il y a des retransmissions ou pas. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, on parle énormément de sport collectif. On parle beaucoup moins de sport individuel. Pendant les 24 heures du sport féminin sur RMC, il y a eu une judokate d'interviewer. On lui a parlé de Teddy Riner et du fait que Teddy Riner... C'est un judoka, ouais, c'est un judoka français. Je ne sais pas combien de fois, champion du monde, champion olympique. C'est le meilleur judoka international en ce moment et depuis quelques années maintenant. Et la judokate qui était interviewée sur RMC, elle est championne olympique en titre aussi depuis Londres. Elle s'était pas encore terminée, je pense, mais il y avait des championnats du monde à l'époque où elle est venue parler. Elle était très bien classée et elle allait être en finale. Et on ne lui parle que d'un homme et du champion.
De son homonyme, quoi.
Ouais, à peu près, masculin. Et on ne lui avait parlé que de ça. Et elle a pas réussi à en placer une autre, la concernant, etc. Vas-y.
Je voulais juste savoir, du coup, elle s'appelle comment l'équipe de basket de Villeneuve-d'Ascq?
Le SBVALM.
Ah non, HBCV, c'est handball, je dis n'importe quoi.
Mais c'est pas grave.
Le S.
ESBVA-LM.
Si. Du coup, c'est 24 heures donc, du sport féminin. C'est quand même une bonne... Enfin, il y a quand même une bonne intention derrière. C'est d'accroître cette visibilité, d'encourager plus de diffusion à des heures décentes de sport où ce ne sont pas des hommes qui s'illustrent par leur performance.
Ouais.
Est-ce que qu'est-ce que t'en as pensé au final de ce week-end?
Ben, moi j'ai trouvé ça relativement intéressant sur l'événement en lui-même. Après, je trouve que on parle pas des problèmes. On montre du sport, c'est bien, ça dure 24 heures, et encore, on montre du sport, on a parlé de 3 matchs sur France Info, par exemple, où il y avait pas mal de choses. Hein. Moi, j'ai vu du sport tout le week-end, c'était pas en lien avec les 24 heures, mais il y avait pas mal de choses à Villeneuve, etc. Donc, mais on parle pas des problèmes, on parle pas du peu d'entraîneurs femmes, on parle pas du peu d'arbitres femmes. Enfin, quand on va voir un match de basket, la plupart des arbitres sont des hommes. J'ai vu un match ce week-end-là d'ailleurs où c'était 2 femmes arbitres. C'est hyper rare, c'était la première fois, ça fait 2 ans que je vais voir tous les matchs au Palatium de l'USBVALM. C'était la première fois que je voyais 2 femmes arbitrer. De temps en temps, on a un homme, une femme, et la femme est souvent second arbitre. Mais sinon, c'est 2 hommes. Je suis allée voir un match de rugby le même week-end féminin local. C'était l'équipe féminine de Lille, donc le LMRCV. C'était un homme qui arbitrait. Enfin voilà, on parle pas la plupart des entraîneurs de basket ou la plupart des entraîneurs de rugby, la plupart des entraîneurs de foot sont des hommes. Il y a une femme qui entraîne l'équipe de France féminine de basket. Ouais.
Même pour les équipes féminines, c'est toujours des entraîneurs hommes.
Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Ce sont des entraîneurs hommes, des arbitres hommes qui arbitrent sur des matchs féminins. Ça fait partie des problématiques. Enfin, on sait pas si et c'est pareil. On parle jamais des équipes de hockey, par exemple. Ça reste un sport typiquement masculin, etc. Déjà le rugby, c'est compliqué. Mais les matchs de hockey, on n'en parle jamais.
À Lille, féminine.
De hockey. Ouais. Mais on n'en parle pas. Et le judo un peu, mais c'est pareil dans les sports individuels. On parle souvent des sports typiquement féminins, la natation synchronisée, le patinage artistique, pardon, c'est pas typiquement féminin parce qu'il y a des hommes aussi, mais on voit plus ça comme un sport féminin. Mais dans les sports individuels, à part les athlètes, on parle peu des femmes aussi. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur cette journée-là. Je trouve ça dommage d'avoir besoin d'une journée pour qu'on parle du sport féminin alors que ça fonctionne bien et que quand on met les moyens financiers dans les équipes, ça fonctionne. Et parce que c'est un peu un cercle vicieux, on veut parler des femmes, sauf qu'elles n'ont pas de résultats. Donc on en parle si elles ont des résultats, mais on ne met pas d'argent pour dans les équipes. Donc elles n'ont pas les infrastructures, pas les entraîneurs, pas les joueurs, pas la publicité, pas les sponsors, etc. Donc pour avoir des résultats, c'est un peu compliqué. Enfin, voilà,
c'est un cercle vicieux.
Voilà.
Peut-être pour nuancer après, si on parle de traitement médiatique pur et dur, mais des gens qui sont derrière et pas qui sont représentés, moi je trouve quand même, enfin c'est une impression en tout cas, qu'au niveau des journalistes sportifs, il y a de plus en plus de femmes, que ce soit sur les plateaux télé, alors je pense que sur France 2, il y a une émission sur le foot par exemple.
Ouais, c'est vrai.
Avant, il n'y aurait pas eu de femmes et maintenant il y en a de plus en plus, ou même dans les commentateurs sportifs quoi.
Ouais, c'est vrai que de plus en plus on en voit. Là, la présentation de Stade 2 a changé, c'est une femme qui présente. Et d'ailleurs, elle a mis...
Ensuite, c'est peut-être parce que la cible est masculine, j'en sais rien.
Ouais, mais il y a aussi... Du coup, elle a un peu féminisé l'équipe. Son équipe de chroniqueurs, elle l'a un peu féminisée, du coup.
C'est-à-dire ?
Bah,
elle a pris des productrices.
Non, alors non, mais sur le plateau, il y a plus de femmes avant quand c'était pas elle. Je sais plus les noms des présentateurs, mais quand c'était un homme, il y avait une femme qui était même pas là tout le temps sur le plateau en tant que journaliste. Depuis que c'est une femme que présentatrice, il y a 3 femmes et qui sont là tout le temps. Donc ça change un peu et c'est vrai qu'il y a plus de femmes, mais c'est pareil, les femmes commentateurs sportifs, elles commentent le sport féminin, alors que les hommes commentent les deux. Et il y a pas beaucoup de femmes qui commentent le sport masculin.
Mmh, peut-être.
Donc c'est
horrible.
Ouais, peut-être.
C'est toujours axé quand même en fait. Donc oui, il y a des efforts de fait mais en même temps, c'est à peu près le même discours sur le handisport en fait. Parce qu'on le montre, alors il y a les Jeux Paralympiques qui sont montrés de plus en plus maintenant sur France Télévisions, machin, mais certaines épreuves à des heures en semaine où tout le monde bosse, enfin voilà, c'est à peu près le même problème, toute proportion gardée, mais on n'en parle pas beaucoup, quoi, non plus.
Du coup, on se pose peut-être la question de qui consomme ce sport sur les médias et est-ce que c'est pas... Enfin, c'est la question de l'offre et de la demande. Est-ce qu'il y a vraiment de la demande de voir du sport féminin et du coup, est-ce qu'ils en mettent et tout le cercle vicieux qui va derrière? Ou est-ce que finalement, c'est parce qu'on n'en montre pas qu'on se dit « ça n'a aucun intérêt, je sais pas trop ».
Bah, sur la demande, en fait, je pense que c'est un peu... Enfin... C'est d'après, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais d'après plusieurs articles que j'ai lus et d'après ce que j'ai pu entendre aussi en discutant avec des gens, tout ça, les gens sont habitués à pas forcément trouver de sport féminin à la télé, et donc en fait, il y en a beaucoup qui se déplacent, qui vont voir du sport féminin sur place. Il y avait énormément de personnes, il y a toujours beaucoup de personnes au Palatium, il y a toujours beaucoup de personnes au Stadium pour aller voir le LMR. Du coup, dans les stades, sur les lieux où il y a du sport féminin, les gens se déplacent, mais ils n'ont pas forcément la télé parce qu'ils ne s'attendent pas spécialement à en trouver. Donc peut-être que, effectivement, ce serait plutôt à l'offre d'être, d'augmenter pour qu'il y ait une augmentation de la demande simultanée plutôt que l'inverse. Je pense.
Bon, sur ce, une petite pause musicale, The XX Angels, donc le premier titre de leur second album, le dernier qu'ils ont sorti en 2012. À tout de suite.
Reflects from your shadow, it is more than I thought could exist. You move through the room like breathing was easy. If someone believed me, they would be as in love with you as I am. They would be as in love with you as I am. They would be as in love with you as I am. They would be in love, love, love. And every day I'm learning about you, the things that no one else sees. And the end comes too soon, like dreaming of angels.
Voilà, nous sommes de retour sur RCV 99FM, vous êtes toujours avec Jean Rage. Et pour terminer sur les 24 heures du sport féminin, je vais vous donner trois dates. Donc le SBV ALM, l'équipe féminine de basket de Villeneuve d'Ascq, Lille Métropole, jouera pour le championnat de France, j'ai oublié contre qui, je pense que c'est contre Angers, le samedi 7 février. Elles joueront également en Coupe d'Europe, bon, pour la Coupe d'Europe, contre des Turcs le 12 février, et elles joueront contre Lyon en Coupe de France cette fois-ci le 15 février, qui est un dimanche. Donc le 7 c'est 20h, le 12 c'est 20h, et le 15 ça doit être 16h puisque c'est un dimanche.
Voilà.
Sinon, je prêche pour mon ancienne paroisse, mais il y a régulièrement des matchs de derby aussi au hall de la Glisse. Il y en a quasiment tous les mois, je pense. Ou sinon, il y en a dans la région, il y en a vraiment régulièrement, donc n'hésitez pas à y aller. Tout de suite, on passe à notre rubrique sur Legend of Korra, Locke, comme on dit, ou comme on écrit plus rapidement. On vous passe un petit morceau du générique, je trouvais ça marrant, et puis on revient tout de suite.
La terre. Le feu. L'air. L'eau. Quand j'étais enfant, mon père, l'avatar Aang, me raconta comment ses amis et lui avaient héroïquement mis fin à la guerre. L'avatar Aang et Zuko, le seigneur du feu, réunirent les tribus de la Nation du Feu en une République des Nations. Une société dans laquelle maîtres et profanes du monde entier pourraient vivre et prospérer ensemble dans la paix et l'harmonie. Ils baptisèrent la capitale de ce territoire la Cité de la République. L'avatar Aang a accompli beaucoup de choses formidables dans sa vie. Malheureusement, il a été appelé vers un autre monde. Et à l'instar du cycle des saisons, le cycle de l'avatar recommence.
Voilà, peut-être que ce petit générique vous aura déjà donné envie de regarder la série.
Comme à moi.
Donc, Legend of Korra, bon, je vous passe les détails de diffusion, du fait que ça fasse suite à une série qui s'appelle Avatar au départ, le dernier maître de l'air, qui tourne autour d'un jeune moine pré-Azo, je pense, qui s'appelle Aang, et donc Korra est la réincarnation d'ailleurs. Bon, la série tourne pas juste autour de cet unique personnage, bien évidemment. Le but de cette rubrique, c'est plutôt d'attirer votre attention sur cette série, qui bien évidemment a ses défauts, et pas des moindres, mais a également des qualités non négligeables, parmi lesquelles, vous l'aurez peut-être compris, le fait que Korra soit l'héroïne de l'anime, donc que pour une fois le personnage principal, et qui porte sur ses épaules la responsabilité de maintenir l'équilibre ou de sauver le monde, ce soit une meuf, ce qui est relativement rare. Donc je vais un peu parler des points forts de la série. Ça répondra à la question pourquoi on vous en parle à Jean Rage en même temps et pourquoi ça nous intéresse en tant que féministe tout simplement. Et puis j'en discuterai aussi avec Julia et Marie qui ont vu la série.
On connaît la fin.
On vous spoilera peut-être. Bon, moi j'ai pas vu les quatre. Il y a quatre saisons, j'ai pas vu la quatrième. Les trois dernières. Oh là là, j'arrive pas à parler.
La troisième et la quatrième.
Voilà, merci. Donc premier point fort, le héros est une héroïne. Korra qui plus est racialisée, donc c'est une femme de couleur, elle n'est pas blanche avec une peau blanche là, à la Blanche Neige quoi. Donc c'est quand même un point assez positif, même si ça a été critiqué par certaines blogueuses. Alors pourquoi ça a été critiqué, le fait que ce soit une meuf? C'est parce qu'en fait, c'est à la fois un point positif et à la fois un point négatif. C'est le fait qu'elle elle explose, elle renverse les rôles traditionnellement associés aux genres masculins et de l'autre au genre féminin, c'est-à-dire qu'elle correspond pas à son rôle de femme traditionnelle de la société genrée, qui serait dans un animé, par exemple, je sais pas si on prend Naruto ou d'autres animés qui sont bien connus aussi, elle se bat quand même, mais elle est souvent protégée ou elle est victime de quelque chose, elle représente, c'est une proie pour quelqu'un d'autre, elle est un peu faible, douce, ou c'est celle qui soigne quand il y a des blessés par exemple. Là non, c'est tout l'inverse. Déjà elle est méga balèze, elle a des gros muscles et tout. En plus c'est l'avatar, donc en gros elle maîtrise tous les éléments, et c'est la seule de la série, donc c'est un peu une espèce d'élu. Elle a une force qui est largement supérieure à ses camarades du genre masculin, et elle a, d'un point de vue caractère pareil, elle est impatiente, impétueuse, impulsive, violente même. Elle cherche pas le statu quo.
Et puis elle va jamais fuir la bagarre, quoi. Si tu la cherches, tu la trouves, sans problème.
Voilà, elle aime l'action. Elle écoute pas toujours ce qu'on lui dit, donc elle est pas en mode « oui, oui, vous me dites et moi je fais ». Bref, elle a toutes les qualités classiques ou traditionnelles qu'on attribue à un héros dans les animés, un héros donc masculin. Donc ça, c'est quand même un des points forts. Je reviendrai sur pourquoi certaines blogueuses ont dit que c'était pas si cool que ça. En termes de représentation de diversité raciale, de genre socio-économique ou de classe, etc. voire même de religion, spiritualité, c'est quand même assez cool aussi. Donc diversité raciale, je le disais avant, Cora, bah, c'est le meilleur exemple. Elle est pas, c'est pas une, une blanche bec, je sais pas si ça se dit.
Et, on l'invente, c'est pas grave.
Les autres personnages de la série, c'est la même chose. Enfin, il y a vraiment un peu de tout, des gens vraiment très blancs, un peu plus bronzés, avec les yeux de telle couleur, les cheveux de telle couleur. Enfin bref, c'est pas tous des surfeurs et surfeuses blondes.
Avec des grands yeux.
Voilà. De genre, c'est pareil. Bon, il n'y a pas de révolution non plus, mais il y a quand même une remise en question des codes de la enfin, il y a pas de remise, pardon, il y a pas de remise en question des codes de la virilité. Enfin, en tout cas, pas, voilà, c'est, j'en ai pas, ça m'a pas choqué, quoi. Mais en tout cas, il y a une panoplie de personnages. Donc, il y a pas un personnage qui fait PD ou un truc du genre, on va dire, par exemple. Voilà, ou qui est un peu efféminé. Enfin, en tout cas, pas dans les saisons que j'ai vues, peut-être que.
C'est de l'ordre de l'interprétation personnelle, hein, davantage.
Pardon, ton micro est... Voilà. Donc voilà. Mais après, il y a quand même une panoplie de personnages féminins forts. Donc il y a Cora, je vous en ai déjà parlé. Il y a Asami, qui fait plus fifi, a priori, comme on dirait, mais qui en réalité conduit des grosses voitures, sait se battre, et en dépit du fait qu'elle maîtrise aucun élément. Et d'ailleurs, je pense que c'est la seule... C'est le, un des, enfin, la seule personnage... qui maîtrise pas les éléments mais qui se bat potentiellement. Enfin, dans mon souvenir, c'est ça.
Bah, récurrente, quoi.
Voilà.
De manière récurrente, elle est toujours présente, quoi.
Et puis, au lieu de s'apitoyer sur son sort, parce qu'elle a pas une vie super cool non plus, il lui arrive des trucs pas cool, bah, elle prend sa vie en main et puis elle se dit, allez, je suis forte et voilà, je continue ma vie. Et après, donc ça, c'est la première saison. Après, les autres saisons, je pourrais pas trop vous en parler.
Ah oui, on n'a pas. Est-ce qu'on a expliqué le fait que, en fait, Cora, c'est l'avatar, donc elle maîtrise les quatre éléments, mais après, il y a plein d'autres personnages qui maîtrisent chacun un élément. Donc, c'est la terre, le feu, l'air...
Le métal.
Le métal.
Le sang.
Le métal, ça, c'est particulier. Ouais. Et donc, il y a la terre, le feu, l'eau, l'air. Ouais, c'est bon, j'ai tout dit. Et en fait, ça, c'est quand même important parce que, en fait, c'est ce qui fait qu'elle est l'avatar, Cora. Et c'est ce qui fait aussi un petit peu l'enjeu, par exemple, dans la première saison, c'est qu'il y a des personnes qui maîtrisent les éléments et des personnes qui ne maîtrisent pas les éléments. Mmh. Et effectivement, Cora, elle est l'élue. Et comme tu dis très, très justement, c'est la réincarnation des autres avatars. Et donc, elle a le pouvoir et les conseils des autres avatars qui peuvent lui filer des coups de main en cas de doute, quoi, et de pépin. Et c'est très important, ça. C'est quelque chose d'admis dans leur monde. C'est-à-dire au moment où un avatar meurt, il y en a un autre qui naît, et quel que soit son sexe en fait. Ça a toujours changé. Il y a toujours eu des avatars masculins ou féminins. Ça, c'est aussi cool.
C'est vrai que j'en avais pas parlé, j'avais pas expliqué trop le principe de la série. juste pour terminer sur les personnages, enfin la pluralité, on va dire, des personnages féminins, mais forts quand même. Il y a après, en tout cas dans la première saison, la générale Lin Beifong. Donc déjà, elle est générale. C'est pas comme si en France, on avait des masses de générales. Elle maîtrise le fer. Elle est à la tête des forces de l'ordre, donc dans la première moitié de la saison 1. Après, elle dit... fuck. Elle est bien badass aussi, et puis elle hésite pas à se sacrifier pour le bien commun, pour la survie du collectif, donc c'est un autre personnage qui a pas froid aux yeux. Donc là, c'est trois personnages qui sortent du lot, il y en a d'autres bien évidemment, sur lesquels je vais pas revenir, si vous voulez en parler, n'hésitez pas. Ensuite...
Bah, je rajouterais juste sur cette générale que tu la vois rarement sourire, et ça c'est pareil, c'est quelque chose... je pense que c'est assez cool. En fait, ouais. c'est une personne qui est hyper sérieuse, qui prend son rôle de défense hyper. Enfin voilà, c'est un peu sa vie de défendre les personnes et d'être hyper balèze et de commander. Et elle sourit jamais. c'est agréable quelque part. Ça la rend pas sympathique, mais. Ça la rend sympathique autrement.
Voilà. Ensuite, toujours dans les points forts, donc il y a plusieurs classes socio-économiques qui sont visibles, même si c'est pas un des gros focus de la série. Il y a à la fois des riches industriels nantis, héritiers, héritières, bien privilégiés, et il y a aussi des orphelins qui ont fait l'école de la rue, en gros, et qui n'ont pas un denier en poche. Donc c'est pas le truc principal de la série, mais voilà. Ensuite, l'intrigue amoureuse qui survient à la fin de la quatrième saison, apparemment, mais que je n'ai toujours pas vue, mais qui avait au premier abord attiré mon attention, entre Cora et Asami. Relation amoureuse confirmée par les créateurs de la série. soit dit en passant. Donc c'est pas juste une projection d'un public en particulier qui dirait potentiellement je me reconnais dans ces personnages-là. Je sais pas si tu veux en parler un peu, Marie, sans spoiler.
Oui, alors peut-être assez rapidement, le fait que on voit se construire du coup une espèce de relation dans un premier temps amicale, très fusionnelle, de complicité. Ne serait-ce que ça, c'est un très très bon point pour la série qui, néanmoins a quelques casseroles, hein, ça n'empêche pas, mais déjà voir une amitié très forte entre deux personnages féminins dans un dessin animé ou dans n'importe quel autre... médias dont on peut se nourrir, c'est quelque chose d'assez rare. Déjà, des personnages féminins forts, il y en avait donc dans la série dont Korra est le spin-off, c'est-à-dire la série Avatar. Il y avait déjà des personnages powerful et il y a une continuité, en fait. On pourrait dire que c'est comme une sorte d'amélioration de déjà un dessin animé qui était plutôt sympa sur ces questions-là. La continuité, elle intervient aussi dans le fait que, comme c'est la suite de l'histoire, il nous est donné de rencontrer les enfants, des personnages. Donc on a les enfants de l'Avatar. Quand tu parlais de Lin Beifong, par exemple, c'est la fille... du personnage le plus badass donc, de la première série. Et donc l'idée que cette relation qui a été nommée par les fans Korra-Sami, pour Korra et Asami, à un moment se concrétise, ça a intéressé vraiment les créateurs, mais ils ont décidé quand même, histoire de pouvoir diffuser juste l'épisode, de demander l'avis, de prendre la température auprès de la chaîne Nickelodeon, qui à un moment reste une chaîne un petit peu sage, un petit peu mainstream. Hein. On ne parle pas d'une chaîne un peu déjantée, parce qu'il y a d'autres dessins animés qui peut-être auraient pu, si on pense à, des chaînes comme Adult Swim, mais Nickelodeon, ça reste une chaîne jeunesse américaine, etc. Et on fait souvent contraster Nickelodeon avec Cartoon Network, par exemple, qui ont une programmation aussi un peu plus rigolote, en mode Adventure Time, Regular Show, tout ça. Il faut quand même préciser que il y a un précédent sur ces dessins animés américains qui font du crypto-lesbianisme et puis qui peuvent pas l'assumer derrière de peur d'être déprogrammés. C'est dans Adventure Time où vous avez quand même deux des personnages principaux, là la vampirette Marceline et Princess Bubblegum, qui ont eu une relation mais avant la série, parce que pas du tout. Donc sur ce dernier épisode, du coup, ça a un petit peu fait exploser Internet dans toutes les directions, parce que y avait les personnes qui, d'une part, étaient complètement à fond dedans, très contents que ça se concrétise enfin, même si finalement ça se concrétisait pas vraiment. Enfin, je vous laisserai découvrir ça de vous-même. Et d'autre part, toutes les réactions homophobes qu'ils entendaient éviter en ne représentant pas complètement la scène, mais en étant juste dans un allusif un peu appuyé, ça n'a pas du tout empêché les homophobes. On sait très bien, si on les nourrit ne serait-ce qu'un tout petit peu, ils vont quand même trouver à y redire. Et donc voilà.
Si on les nourrit pas, quoi. Je me souviens toujours de cette espèce d'article hallucinant à propos de la princesse des neiges, là, je sais pas quoi, où à un moment donné, elle dit je veux être libre, je veux mettre mon passé derrière moi et je sais pas quoi, et qui a été pris par une partie de la droite extrémiste conservatrice américaine comme une ode au mariage pour tous. Et j'étais là, non, mais c'est quand même incroyable. Comme moi, j'ai vu le passage, j'ai rien compris. J'étais là, mais ils sont partis, je sais pas où ils sont allés chercher ça. Enfin, je veux dire, il leur en faut très peu, hein.
Enfin. Bon, en tout cas, des personnages féminins forts et des relations aussi entre elles assez fortes. Deux derniers points forts, et puis après, on parlera peut-être de ce qui a été critiqué dans la série. Il y a quand même un questionnement sur la famille. Il y a plusieurs types de familles, c'est un peu simpliste, hein, quand même. Mais bon, ça reste un show pour enfants, on va pas non plus parler de trucs hyper compliqués. Mais, par exemple, il y a deux gars qui, idéologiquement, sont aux antipodes, l'un de l'autre. Ils se battent littéralement pour leur cause, ils se tuent presque. Et ils finissent à deux en repartant, parce qu'en fait, ils sont frères, au final. C'est dans la première saison, je dis pas les noms parce que sinon je spoil tout. Et du coup, on comprend rien.
je vois pas de qui tu parles, c'est loin.
C'est pas grave. Mais en gros, il se dit tu t'es tout ce qui me reste au monde, en gros. Donc, c'est et vrai. Je me suis fourvoyée tout ce temps-là quand j'étais un gros méchant. Et en fait, repartons à deux, et on refait notre vie. Et puis l'autre se suicide avec son frère, en fait. Enfin, c'est ce qui est. C'est mon interprétation, après tout, on n'est pas sûr. Mais bon, c'est plutôt ça, a priori. Donc, je ne sais même plus ce que je voulais, pourquoi je parlais de ça. Mais en gros, il y a quand même un gros questionnement autour de la famille. Après, il y a une espèce d'apologie de la famille mononucléaire, je trouve. Un papa, une maman, etc.
Nucléaire, ça suffit.
J'ai dit quoi ?
Mononucléaire. Mais ça renforce l'idée de la nucléarité de la famille, quoi.
Et du coup, enfin, il y a quand même cette apologie-là, donc c'est pas hyper cool, je trouve. Enfin, c'est vachement prégnant, c'est trop prégnant, et c'est presque, comment dire ? Moi, ça me fait un peu étouffer, limite, tout ce questionnement autour de la famille. Je te vois.
C'est vrai que sur toute cette représentation hyper centrale autour de la famille, donc des Airbenders, de ceux qui contrôlent l'air, avec donc la maman poule pondeuse, qui une fois de temps en temps dit un truc un petit peu powerful, mais finalement reste quand même dans son rôle de. Bah, en fait, elle a des gamins, en plus assez chiants, disons-le, à gérer.
Bah, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent l'air dès leurs 3 ans, donc imaginez voilà, ce que ça fait, un gamin qui peut sauter au plafond. Ou dans les airs n'importe quand.
Oui, oui, puis après, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu ce truc de famille. Le père de Cora, il est aussi très présent. Il y a toujours des trucs de rivalité entre frères. Bon, ça, c'est quand même... Ça reste toujours des grosses ficelles. Après, moi, j'avais trouvé, donc, dans cette première saison, les deux frères à l'enfance dramatique. C'est quelque chose qui nous est assez familier, hein, ces temps-ci. et en définitive, dans les quatre books, les quatre saisons qui succèdent, toujours les personnages des gentils peuvent devenir méchants ou relous. Donc il y a jamais des personnages complètement univoques. Ouais. Ça c'est assez rafraîchissant. Et finalement, les personnes qui vont mal agir, devenir des gros méchants et tuer des gens, etc. Sans leur donner d'excuses, on leur trouve des raisons. Ce qui contribue aussi à une construction quand même un peu moins inintéressante que dans la moyenne des dessins animés où c'est juste je veux contrôler le monde. Notamment dans la première saison, le méchant en question instrumentalise politiquement le fait qu'il y a une inégalité structurelle de la société parce qu'il y a les benders et les non-benders, donc les gens qui contrôlent ou non les éléments. Donc moi je le dis en anglais parce que je sais pas comment ça a été traduit, j'ai pas vu le dessin animé doublé. D'ailleurs j'en suis assez contente de ce que j'ai entendu du doublage du générique, qui est un peu calamiteux. Mais il y a une autre raison pour laquelle j'emploie ce mot-là, bender, parce que je trouve ça très très ironique. En fait, dans l'argot britannique, le mot bender, ça veut dire pédé, quoi, tapette, pédale. Enfin, c'est un mot très violent, très très homophobe. Et donc, de voir dans la première saison les anti-benders finalement qui disent arrêtez de nous opprimer, machin, il y a comme une inversion assez plaisante. Voilà.
Bah, du coup, vas-y.
Non, pardon. Juste pour préciser ce que tu disais par rapport aux méchants, c'est clair que les méchants, on leur trouve des raisons. Et puis surtout, ils ont une vie. C'est-à-dire qu'ils aiment des gens. Ils sont pas juste dans la haine. Ils ont un amour pour une personne. Ils sont dans une solidarité par rapport à d'autres personnes, par rapport à un groupe. Et en fait, ça, pareil, c'est hyper cool, quoi. En plus, si c'est vraiment adressé à un public enfant... Moi, je trouve ça juste complètement plus intéressant parce que même les personnages méchants, ils vivent, ils ont un objectif d'être heureux ensemble et même s'ils font de la merde et qu'ils tuent des gens pour ça, bah, ils sont quand même... Enfin, tu vois, il y a un truc voilà, qui...
On n'est pas dans un manichéisme pur et dur ou...
Merci.
Puis après, ils ont un objectif qui dépasse même juste l'amour de leur famille ou je sais pas quoi. En fait, ils cherchent toujours à faire les choses correctement et à un moment, s'égarent sur la route. Par exemple, dans la première saison, il est clairement au départ porté par une sorte de quête d'égalité parce que,
c'est vrai.
En fait, c'est vrai que les personnes qui sont non-benders dans la ville, en fait, ils galèrent plus à trouver du taf, etc. Et dans toutes les saisons, toutes les personnes qui finalement deviennent les grands méchants, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un grand méchant, je veux dire, c'est un dessin animé avec de la baston, etc., le sont pour une bonne raison, quoi. Et bon, voilà, je ne veux pas préciser les raisons, je vous laisserai vous en enquérir.
Bon, alors on finit sur le dernier point qui vient justement de ce dont vous venez de parler, qui est l'intrigue politique. Et puis après, on fera une petite pause musicale. On doit parler normalement de ce qu'on n'aime pas du truc. On va voir entre nous ce qu'on fait parce qu'on avait prévu autre chose. Du coup, dernier point fort quand même, même s'il a ses défauts, effectivement, l'intrigue politique. Donc grosso modo, il y a une partie de la population, comme vous avez compris, qui maîtrise pas les éléments et une autre qui maîtrise les éléments. Il y a ce point de vue et cette lutte égalitariste. Et du coup, c'est quand même vachement intéressant parce qu'on se pose la question du privilège et de que faire avec ce privilège et comment faire en sorte que ça ne devienne pas quelque chose d'oppressant, effectivement. Et après, il y a aussi moi, j'aime bien l'intrigue qui est... Enfin, le fait que, par exemple, le chef des égalitaristes arrive plus ou moins en pouvoir de manière légale et démocratique, vu que tout le monde adhère à ce qu'il dit. Moi, ça me rappelle un peu l'ascension de Hitler. Et idem du côté, en fait, des soi-disant bons qui sont les maîtres des éléments. Il y a un ministre qui prend avec le conseil, même si c'est hyper mal foutu ce truc-là, parce que les décisions elles sont prises à la va-vite et tout le monde est d'accord avec ce qu'il dit et c'est hyper simplifié, mais c'est pas grave. Lui, il décide qu'il faut prendre les choses en main, qu'il faut mettre un couvre-feu, etc. Et là, ça fait hyper totalitariste aussi, mais finalement, il a été investi de manière démocratique dans ses fonctions de tyran, donc c'est assez intéressant de voir ces processus politiques-là.
Ouais, après, au niveau des processus politiques, juste, il y a quand même un truc qui est que les benders, ceux qui maîtrisent l'eau, ceux qui maîtrisent le feu et tout, ils sont tous représentés au conseil, mais il n'y a pas vraiment d'élu qui n'est pas non-benders, en fait.
Oui, bon, c'est à moitié saison. Démocratique, hein, bien évidemment.
Non, mais parce que après ça change, c'est pour ça.
Ok. Donc voilà, on fait une petite pause musicale et on revient tout de suite. La chanson qu'on vous passe, je ne m'en souviens plus. Si, alors c'est Le Tigre Decepticon, si je ne sais pas trop comment ça se prononce, de l'album éponyme du Tigre sorti en 1999. À tout de suite.
Every day, I'm alive.
Et voilà, vous êtes bien sur RCV toujours avec Jean Rage, avec Anaëlle, Marie et Julia. On était en train de parler de Legend of Korra et on allait justement aborder un peu les points critiques qui viennent nuancer cette série qui est bien évidemment très cool, mais qui a quand même, qui pose certains problèmes. Mais comme on était en train de parler d'intrigues politiques, moi, il y a quand même un truc qui m'a frappé. C'est la décrédibilisation, j'ai réussi à le dire, du mouvement des égalitaristes. Donc, ça aurait pu être un groupe, je sais pas, autogéré, anarchiste, avec une hiérarchie horizontale et tout ça. Un truc bien égalitariste, non violent et tout ça. Et en fait, non, c'est comme dans tous les mouvements, il y a un mec qui est au-dessus de tout le monde, qui domine l'ensemble des restes des adhérents à cette idéologie, qui est au-dessus du lot et en plus, là, je vais peut-être spoiler, mais en plus, il est maître, tant pis, je le dis. Et en fait, il est alimenté par un désir de vengeance, donc il n'est pas si égalitariste en mode politique que ça. Donc ça décrédibilise un peu le mouvement. Je vois que tu
fais... Il est maître ?
Bah ouais.
Ah, mais t'avais oublié.
Non, mais tu veux dire qu'il maîtrise un élément.
Ouais.
Oui, pardon. Ça fait bizarre pour moi, j'ai vu la série en anglais.
Et en plus, ça justifie à chaque fois, la violence qui est exercée par eux, par une violence qui est exercée sur eux. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu difficile à remettre en question tout ça, mais ça décrédibilise un peu leur mouvement, alors que ça aurait pu être une grosse partie de l'intrigue politique et un truc un peu plus sérieux.
Alors c'est vrai que sur ce point-là, et puisqu'on en est à spoiler, dans la saison 3, on a aussi une grosse caricature de l'anarchisme.
Ah oui.
En ce sens qu'il y a comme ça tout un groupe de méchants qui, eux, pour le coup, ont une espèce d'organisation horizontale entre eux et qui prônent la violence comme peuvent le faire de manière assez légitime, finalement, certains groupes anarchistes. Mais avec vraiment toujours... le terme, du coup, je sais même pas s'il est employé, mais s'il l'est, il est un peu dévoyé, quoi, finalement.
Ouais.
Encore une fois, c'est toujours dans cette idée de « on veut faire tomber les tyrans » et tout. Mais bon, ça prend une forme un petit peu caricaturale.
Voilà, c'est ça.
Un autre, moi, je trouvais des mauvais points. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il y ait des personnages féminins très, très powerful, qui nous permettent de nous identifier en tant que meufs à des meufs à la télé, et quand on y réfléchit bien, ça nous arrive pas tant que ça.
C'est
au
ça.
Point qu'on a vraiment complètement intégré le fait juste de s'identifier au personnage principal, fille ou garçon, que ce soit dans les dessins animés, les films, les jeux vidéo, etc. Alors qu'on voit bien, malgré ce que peuvent dire les gens qui vont concevoir les dessins animés ou les jeux vidéo en question, que c'est pas trop difficile, même pour un public masculin, puisque l'engouement il est vraiment assez large, assez vaste pour Korra. C'est pas juste regardé par des meufs féministes, lesbiennes, etc.
C'est clair.
Et visiblement, ces garçons arrivent à s'identifier à un personnage féminin, tout comme nous, on est capable de s'identifier, non pas qu'on ait vraiment toujours le choix d'ailleurs, à des personnages masculins. Le problème, c'est que comme c'est une meuf, ça pose un petit souci par rapport à la première saison, les personnages sont un petit peu plus âgés, donc ils ont les hormones en ébullition, et il y a comme cette idée que comme c'est une meuf, il faut qu'elle vive des histoires amoureuses, on veut bien qu'elle vive des aventures, on veut bien qu'elle soit powerful, mais il faut pas oublier que c'est une fille et que donc elle doit être drivée par l'amour, peut-être pas avant toute chose, mais quand même de façon assez importante. Donc il y a des espèces de triangles amoureux de merde, hein, un peu léger, pour le coup pas aussi bien construit que le reste de la série, et comme une manière de dire que finalement on peut pas vraiment parler de femmes sans parler d'amour, quoi. L'autre chose étant que hétérosexuel en plus, parce que quand même,
faut pas,
pas déconner, quoi. Mais du coup, même ce personnage de Asami Sato, effectivement sait se battre, elle est pas Banzer, mais c'est la fille d'un inventeur, donc elle touche bien aussi en technologie, etc. Comment est-ce qu'elle nous est présentée dans la saison? Sa première apparition, finalement, c'est en tant qu'intérêt amoureux, donc d'un des personnages masculins. Donc voilà, c'est une entrée un peu spéciale, finalement. Elle aurait pu aussi nous être présentée et entretenue en tant que personnage, en tant que récit de personnage, complètement autrement, justement parce qu'on nous en montre d'autres facettes par la suite, quoi.
Moi, moi, un autre, enfin, quelque chose qui m'a, enfin, qui m'a pas dérangé en soi, mais c'est vrai que c'est une critique qui est tout à fait recevable, c'est le fait que Cora, qui représente quand même la meuf la plus balèze dans la série, c'est le personnage principal, emprunte les codes de la masculinité quand même dans la manière dont elle réagit et dont elle se comporte et dont elle se bat et tout ça d'ailleurs. Et du coup, ça met, enfin, ça représente pas, enfin, ça met en lumière ce travail de déconstruction. Ouais, bah, une meuf, ça peut être balèze et violente et tout ça aussi, tu vois. Mais c'est, ça montre pas une féminité traditionnelle, mais d'un point de vue positif. C'est-à-dire que tout, enfin, les personnages qui sont balèzes et badass, ben du coup, ils empruntent les codes de la masculinité. C'est plus,
bah, du coup,
ce qui est pas grave en soi.
Non, hein, mais bien sûr. Mais moi, je relativiserais quand même parce que Asumi, justement. C'est la meuf, la première apparition que tu vois d'elle, elle enlève son casque de moto et puis elle secoue ses longs cheveux noirs et puis là il y a des étoiles autour d'elle, donc t'es là ok, oh, non, pitié, sauf qu'en fait tu te rends compte que en fait à n'importe quel combat elle a le dessus parce qu'elle maîtrise de manière extrêmement avancée le combat au corps, le jiu-jitsu, enfin elle maîtrise des sports de combat. Et qu'elle est, et qu'en plus, voilà, elle a du fric, donc en fait, elle a une forme de pouvoir qui fait qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Et elle adore les grosses motos. Et enfin, du coup, elle est assez féminine de son apparence, mais par ailleurs, dans les codes qui lui sont attribués ou dans son caractère qui lui sont attribués, elle a pas forcément des capacités féminines de d'écoute et d'attention qui sont hyper mises en avant. Hein.
Non, mais du coup, c'est bien,
c'est
justement.
Ça. Je trouve entre que les deux.
Voilà. Je sais pas s'ils ont construit les personnages ensemble. Heureusement qu'il y a quand même ce truc qui contrebalance un peu le truc bien bourrin de Cora, même si moi ça me va très bien aussi. Hein. Ça me pose pas de problème en soi, mais c'est vraiment cool qu'il y ait.
Ouais, bien sûr.
Pas cette complétude, voilà, je sais plus.
Complaisance
parler. Non, cette compli.
Tu veux dire
le
quoi?
Fait que ça se complète. Bref, j'ai tout à fait perdu ce que je voulais dire.
Complémentarité.
Voilà, merci.
Oui, ah, c'est ça. Ah, oui, ah, on aurait dû parier pour des points. Ou...
Donc, j'irai pas jusqu'à parler de complémentarité entre les deux personnages, parce qu'ils ont pas été construits de la même manière, ni pour être pris ensemble. Mais cette pluralité de représentation de meufs balèzes, c'est quand même vachement cool.
Et puis, j'ai envie de rajouter quand même que la meuf qui est la femme du dernier, d'un des derniers représentants qui maîtrise Maître de l'air. Donc elle c'est sa femme. Et donc, comme c'est le dernier représentant, elle a plein de gamins pour qu'ils puissent repeupler ceux qui maîtrisent l'air. Donc, c'est un petit peu déprimant. Yeah. Mais par ailleurs, elle prend de l'importance à la fin. Là, c'est dans la saison 4. Et elle a un rôle dans la sauvegarde de la cité, la cité républicaine. Je sais pas comment il s'appelle
Republic
en français.
City, ouais.
Republic City.
La cité de la République.
La cité de la République. Et elle a un rôle qui est de gérer les habitants qui restent, qu'on n'a pas pu évacuer. Et elle le fait très bien. Et en fait, je pense qu'il y a aussi une temporalité qui est intéressante d'ailleurs dans Cora. C'est-à-dire qu'on voit vraiment les enfants grandir. Parce que du coup, ces enfants du maître de l'air, là, qui sont hyper... Il y a des personnages forts féminins qui grandissent et qui, du coup, par exemple, Jenora, qui est l'aînée du maître de l'air, c'est la seule à maîtriser la connexion avec le monde spirituel. Et c'est elle qui l'apprend. Elle a 13 ans et c'est elle qui l'apprend à l'avatar Korra, par exemple. Donc il y a plein de trucs effectivement qu'on sent qu'ils ont travaillé au fil des saisons, j'ai l'impression, moi.
Par contre, je trouve que c'est un peu lent dans la première saison. Il n'y a pas des masses d'évolution. Même là, donc la deuxième saison où j'ai commencé, je trouve pas que Cora soit hyper plus mature qu'il y a, je sais pas, ça fait peut-être un an qui s'est déroulé entre le début de ses aventures et quand on arrive à la saison 2. Et elle a toujours le même caractère, elle se remet pas des masses en question, etc. Donc ouais, ça, je trouve que c'est vraiment un point faible de la série, quoi.
C'est vrai que c'est comme si ce côté un peu powerful, un peu elle porte la culotte, c'est parfois c'est présenté ça. Comme un truc un peu négatif, une sorte d'impulsivité, etc. Sachant que si ça venait d'un personnage masculin, ce serait pas forcément négatif, et qu'il y a comme pas de zone de gris entre ces moments où elle est hyper forte et où du coup, en fait, elle s'engueule avec tout le monde parce qu'elle écoute pas ce que les gens lui disent et tout ça.
Les moments où, à l'inverse, elle est d'une faiblesse absolue et les gens doivent un peu voler à sa secours, à son secours, parce qu'à un moment, il faut que ça reste une demoiselle en détresse aussi, hein, parce que c'est une demoiselle tout court. Et c'est vrai que d'alterner donc entre ce moment où elle est forte, mais c'est plutôt une erreur, elle est faible, ben, ça fait un peu chier, quoi.
Bon, dernière petite remarque peut-être, et puis l'émission déjà prend...
touche à sa fin.
Ouais, touche à sa fin, merci, exactement. Eh ben, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je me souviens plus. Si, alors, on parlait des codes de la féminité et tout ça. C'était peut-être pas hyper clair, mais quand je disais que Cora est forte en empruntant les codes de la masculinité, je mettais ça, par exemple, en opposition par rapport à d'autres séries. Là, le truc typique auquel je pense, que je regardais pas des masques quand j'étais petite, mais que j'ai quand même regardé. C'est Sailor Moon, justement, c'est des meufs super fortes, elles se battent et tout, mais les attributs qui leur permettent d'avoir ces pouvoirs-là, c'est des attributs typiquement féminins, un rouge à lèvres, un serre-tête, une espèce de baguette magique et tout ça, et où là, c'est vraiment une féminité, pas traditionnelle, mais une féminité telle qu'on l'a...
Stéréotypée.
Stéréotypée, ouais, qui est bien, vraiment montrée d'un point de vue ultra powerful, quoi.
Oui, voilà. C'est vrai.
Bah c'est tout, l'émission touche à sa fin comme je le disais, on se revoit dans 2 semaines
Et du coup dans 2 semaines je compte bien vous parler d'Ursula Le Guin qui est donc une auteure de science-fiction américaine et voilà du coup je garde ma petite rubrique littéraire de science-fiction féministe pour la prochaine fois.
Et ben à bientôt, salut.
Salut.
À
bientôt, salut.
Et bon dimanche
pluvieux.
Thank you.